Vous écoutez
RMC. RMC, 9h30, midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h06, vous êtes bien sûr RMC, les grandes gueules du sport en direct jusqu'à midi. Le débat ne s'arrête jamais. En studio, elles sont intarissables. David Douillet, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux et Olivier Giraud. On joue également sur RMC ce week-end puisque mercredi prochain, on sera à J-100 des JO de Paris. Nous vous offrons donc 100 places pour assister aux épreuves sur l'antenne de RMC. Dès aujourd'hui, dans chacune de nos émissions, vous allez pouvoir emporter vos deux places pour assister à des épreuves des JO, cérémonie d'ouverture, finale du 100 mètres, judo, tennis de table, natation, quatre-nages et plus encore. Mais oui, non, Christophe, toi, tu n'as pas le droit de jouer. C'est aux auditeurs s'exprimer. Vous envoyez, les auditeurs, Paris 2024 au 7-32-16. Paris 2024 au 7-32-16. Le ou la gagnant te sera tiré au sort à 11h40. Et puis, vous le savez, les GG, c'est le nouveau rendez-vous qui fait fureur cette année, les grandes gueules contre-attaque sur la musique qui fout les jetons. Elle aussi, on vous a demandé comme chaque week-end de nous proposer un thème de débat et les auditeurs votent sur le compte X de l'émission, anciennement Twitter.
Et on a le droit de faire la promo un peu de notre truc ou...
Oui, alors vous avez le droit, mais en 20 secondes, sinon on vous coupe le micro. Va-t'en, puisque tu fais le malin, Christophe.
Tu parles trop, laisse-moi parler.
C'est mon défaut, mais je crois que tu as le même. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce que tu proposes aux auditeurs,
Christophe? Moi, je vais vous parler de la cata alpine. Il y a deux ans, on était tout feu, tout flamme, deux pilotes français, des voitures bleues, ça allait cartonner, on allait retrouver Alain Prost, et aujourd'hui on est à la rue totale. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de chez Alpine? Et on écoutera justement un moment mythique lorsque Ocon remporte le Grand Prix, son seul Grand Prix. T'étais à l'antenne, David, d'ailleurs, ouais, avec Jean-Luc Roy ce jour-là, mais depuis, malheureusement, on attend toujours une victoire. Donc
la caca, tu as déjà le son de ton truc?
Oui,
c'est ça, le professionnel. Rien ne nous empêche de faire la même chose. Si vous étiez un peu professionnel, vous pourriez le faire.
Non, mais on travaille pas la
La caca, la catastrophe alpine pour Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski.
Je vais vraiment faire 20 secondes. Nadal est attendu à Barcelone à partir de lundi pour enfin peut-être jouer un tournoi. Attends, je n'ai pas fini. Ma question, c'est est-ce que vous pensez raisonnablement qu'il pourra fêter ses 38 ans À Roland-Garros,
évidemment. Il était.
J'ai eu peur.
Ouais, non, mais quand même.
Est-ce que vous pourriez.
A priori, il va aller faire la question. C'est la question, où est-ce qu'il sera sur le voilà. court ou.
Voilà. Mais même s'il n'est pas là, je pense qu'il ne viendra pas fêter ses 38 bougies à Roland-Garros. Oui.
Voilà, lui qui était forfait à Monte-Carlo, on le rappelle. David Douillet, qu'est-ce que tu proposes aux auditeurs?
Oh là là, moi, ça m'énerve, mais je vais être obligé de proposer un truc qui ennuie tout le monde, mais dont il faut parler.
Donc, tu es sûr de ne pas gagner, quoi?
Ouais, j'ai peu de chances de gagner. Mais je vais.
Bien vendu, ça donne envie. Hein.
Non, mais voilà, mais la grève. Les champions du monde de la grève. Il y a encore, là, cette semaine, des syndicats qui ont déposé des préavis de grève.
Pendant les Jeux.
Ouais. Voilà. Donc, je vous en passe des meilleurs parce que j'ai que 20 secondes. Mais.
Oui, que tu as déjà dépassé.
Imaginons que ça se déclenche. Mais quel visage aurions-nous face au monde entier et pour la France? Les Français, comment apprécieraient
la question? Ils en ont rien à faire, la CGT, l'image de la France.
Ouais, c'est ça le problème.
Les grèves pendant les Jeux pour David Douillet. Olivier Giraud.
Pour moi, c'est l'approche des Jeux peut-elle fausser la fin des championnats, tous championnats confondus? On pourrait mettre les Jeux, mais on pourrait s'y mettent le championnat d'Europe de football. Est-ce que ça influe actuellement sur les performances des joueurs, quel que sport
tu
que ce soit?
Tu entends qu'il y en a qui mettent le frein à main.
Des jeux pour les athlètes.
Ça serait un autre débat.
Oui, alors non, désolé. Merci Christophe, merci pour tout. Les grandes gueules contre-attaque, la rubrique 11h45. Vous avez jusqu'à 11h44 pour aller voter sur le compte X, anciennement Twitter de l'émission. Et puis à 11h30, vous n'oubliez pas le redouté car redoutable débat caché, histoire de vérifier si nos GG s'intéressent vraiment à toute l'actualité. Mais pour l'instant, dans les grandes gueules, on passe la seconde.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Teddy est trop fort. Ça y est, Teddy Riner est champion olympique. C'est fait. Bravo garçon, c'est génial. C'est trop fort. Il est beaucoup trop fort.
Ouais, il réussit un super coup franc. Allez, Florent Manodou qui est à la lutte pour le titre olympique. Ne vous le cachons pas. Attention, il va être champion olympique, Florent Manodou. Il va être champion olympique. Attention, victoire, victoire, victoire de Florent Manodou, champion olympique. Champion olympique, Florent Manodou.
C'est non, c'est non, la France est champion olympique. La France est champion olympique de volley. Les Bleus sont
attends,
sur
Nicolas,
le toit du monde.
Nicolas. RMC, radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.
Ce sera l'événement sur les antennes du groupe. Emmanuel Macron, invité exceptionnel de RMC et BFM TV, ce lundi de 8h20 à 9h, à 100 jours du début des Jeux de Paris. Le président de la République répondra en direct aux questions d'Apolline de Malherbe et puis de vous, les auditeurs de RMC, et puis de nos consultants Jeux Olympiques, parmi lesquels un certain David Douillet, qui sera accompagné lundi de Marion Bartoli et Rémi Boulay. Alors, si vous voulez poser vos questions au chef de l'État, vous, les auditeurs, sur la sécurité des Jeux, la cérémonie d'ouverture, les transports ou alors les ambitions du président de la République pour nos athlètes tricolores, une adresse, vosquestions@rmc.fr. Je répète, vosquestions@rmc.fr. Et puis évidemment, le 32-16, vous n'hésitez pas, c'est lundi de 8h20 à 9h. Mais du coup, mes grandes gueules, on vous offre avec Kylian Vérov, vous aussi, cette opportunité ce matin, considérant que votre... Non, non, mais non, moi, j'ai pas les places. Hein, j'ai rien.
Moi, je veux bien servir de délégué. Tu sais,
voilà, exactement. On va considérer que votre petit, considérant que votre petit camarade Douillet se fera votre porte-parole lundi matin chez Apolline. On vous a réservé ce matin un espace pour vous exprimer sur la question qui vous préoccupe le plus, un peu plus de trois mois de la cérémonie d'ouverture. Alors, chacun votre tour en argumentant. Vous allez nous dire sur quel sujet, sur quel dossier vous attendez avec le plus d'impatience des réponses, des garanties, des promesses du chef de l'État concernant les Jeux à domicile. On commence avec toi.
Non, non, j'avais pas compris le débat. Alors, je suis complètement hors sujet.
D'accord. Alors, je te laisse un tour de table pour pour te préparer. C'est bien. Il faut lire les messages de notre petit groupe WhatsApp.
Je les ai lus.
Sarah Pudkowski.
Je dois mal lire alors.
Avez bien lu donc.
Pour ma part, là où j'attends Monsieur Macron et le gouvernement en particulier, c'est la sécurité à tous les niveaux. La sécurité pour la cérémonie, bien évidemment, puisque celle-ci, la jauge est en train de descendre au fur et à mesure, mais aussi la sécurité pour les touristes qui vont arriver dans les différents aéroports ou aux différentes gares, pour qu'ils puissent profiter des billets qu'ils ont achetés pour voir les épreuves et qu'ils puissent le faire en toute sécurité. Sécurité dans les transports, puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas véritablement comment seront les transports pendant les Jeux. Donc voilà, c'est la partie qui me semble incomber particulièrement au gouvernement. Pour le reste, il n'aura pas d'influence sur les athlètes et les résultats des médailles. Donc pour moi, le gouvernement, c'est sécurité avant tout.
Allez, pour rassurer Christophe Cessieux, je vous avais proposé de vous manifester, d'interroger le chef de l'État sur votre plus gros motif d'inquiétude sur les Jeux. Voilà, triste cire. Christophe Cessieux, tu veux parler des choses qui vont nous inquiètent.
Bah, des choses qui inquiètent. Alors, c'est vrai que quand tu écoutes le pays depuis six mois, on va vers l'apocalypse. Hein, ces Jeux Olympiques, c'est la septième plaie de la France.
Tu veux dire lorsque tu empruntes la ligne 8 du métro de Fribourg ?
Mais quand tu écoutes les uns et les autres, moi, j'en peux plus de tout ça. Malgré tout, il y a quand même des motifs d'inquiétude qui sont importants. Et je pense que le premier d'entre eux, c'est la sécurité. Sarah le disait, cette sécurité, notamment lors de la cérémonie d'ouverture. C'est une superbe idée, magnifique, sur le papier. Mais c'est un casse-tête incroyable pour les services de sécurité. Et aujourd'hui, vu la situation, géopolitique très compliquée, que ce soit les organisations terroristes, que ce soit certains États qui ont intérêt évidemment à ce que on se plante en France et que ce soit le chaos, je suis inquiet de ce côté-là. Donc j'aimerais bien savoir si le président peut nous parler de ça et si
comment il peut rassurer sur ces points-là.
Voilà, et si ses services secrets lui renvoient des choses inquiétantes ou non.
Tu crois qu'il va nous le dire?
Non, il ne va pas nous le dire. Mais si on apprend apprend par exemple quelques jours avant la cérémonie d'ouverture que celle-ci est transformée, c'est qu'il aura peut-être des informations. Bref, moi c'est le seul sujet d'inquiétude que j'ai pour ces Jeux. Franchement, je pense qu'une fois que la cérémonie sera bien passée, et on l'espère tous, que les compétitions auront débuté, tout ça, toutes ces critiques, toute cette négation vis-à-vis des Jeux Olympiques, tout ça s'envolera. C'est le cas. J'ai fait quand même une dizaine de Jeux Olympiques, je sais ce que c'est. Il y a eu des critiques à chaque fois. 10.
Ça fait 40 ans.
Ça fait 40 ans. Okay, non mais il y a eu jeux d'été, jeux d'hiver. Voilà. J'ai commencé. J'ai commencé avec mon David, champion olympique à Sydney.
Voilà.
Voilà.
Nananère.
Voilà. Tu vois. Et j'ai poursuivi avec, avec le pépère Giraud, là, il y a quelques années plus tard.
Mais il était toujours là.
Et vous aussi, je vous signale quand même. Il y en a même un qui va interroger le président de la République. Non, donc c'est pour ça. Je pense que l'histoire des transports, ça va se réguler, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être un autre petit souci, mais ça, le président de la République n'aura aucune influence là-dessus. J'ai peur d'une canicule telle que celle qu'on avait connue en 2003. On annonce un été très costaud. Et la canicule sur une population incroyable qui va se déplacer à Paris, ce sera difficile à gérer. Si on a une canicule du genre de celle de 2003, là, ça peut être une cata.
Et ce sera compliqué de mettre ça sur le dos du comité d'organisation des Jeux ou de l'exécutif.
Et ils l'ont anticipé, pour le coup.
D'accord, avec quoi? Des brumisateurs?
Déjà sur le décalage de certaines compétitions.
Les horaires. Pour les athlètes. La sécurité, évidemment, qui est au centre des préoccupations. On rappelle que les quarts de finale de Ligue des Champions ont fait l'objet d'une menace cette semaine.
Je veux dire, le reste, c'est le sport. Donc je vois pas où il peut agir d'autre, ou en tout cas où le gouvernement peut être attendu autre que sur ce
point-là. Peut-être sur l'héritage.
Oui, mais t'as raison. Mais ça, on le calculera, ou en tout cas on le constatera dans les mois à venir. Donc on pourra tomber dessus.
Tu penses que l'héritage c'est après qu'on...
Signes de l'héritage après.
Moi je vais répondre à la question.
Tu vas pas le voir le 1er septembre 2024.
Ah bah, si, c'est ça le problème. Tu vois, c'est si je devais dire un mot.
Sauf pour certains sports de manière isolée, s'il y a des médailles qui tombent,
je vais donner un exemple tout bête. C'est-à-dire que si sur l'héritage, parce que l'on parle des Jeux Olympiques, moi je vais te parler des Jeux Paralympiques. C'est-à-dire qu'un domaine où il y a un champ d'augmentation des pratiquants qui peut être exponentiel. Si tu ne le prépares pas aujourd'hui, parce que, en fait, comme tous les pays, c'est quelque chose de très nouveau, le moment où les familles et les enfants vont vouloir faire du sport, si tu n'es pas prêt, là, c'est une catastrophe.
Tu parles des aménagements possibles pour accueillir.
Ça, c'est pas qu'une histoire de sport.
C'est une question d'urbanisme de manière générale.
Absolument.
Comment un pays se transforme pour accueillir les personnes qui sont atteintes de handicap et qui puissent vivre le plus normalement possible. C'est plus juste une histoire de sport.
Absolument.
C'est que les jeux paralympiques peuvent aider à accélérer la transformation. Ce qui s'est passé à Londres.
C'est une
ville qui a réussi à se transformer pour l'accueil des personnes à mobilité réduite ou handicapées. Parce qu'il y a eu les Jeux qui a été un accélérateur de particules.
Mais on ne va pas le constater en septembre. Autant les Jeux, on est d'accord, c'est à Paris, on parle des installations parisiennes. Mais l'afflux massif demain de primo sportifs, de nouveaux arrivants, que ce soit dans le domaine du sport féminin, que ce soit dans le domaine du handicap, c'est toute la France qui va être concernée. Donc exactement. Là, ça ne concerne plus Paris, là.
Oui, on est d'accord.
C'est toute la France, les infrastructures.
Oui, on parle du visage que la France souhaite montrer au monde. On voit, en se promenant dans Paris, déjà des stations de métro qui s'équipent d'ascenseurs, qui serviront
plus en plus.
Ou qui existaient, mais qui fonctionnent.
Ceux-là, on peut espérer qu'ils fonctionneront.
Parce qu'il y en a certains, mais ils ne fonctionnaient que très rarement.
Tu prends des notes, David. Je rappelle que ce sera avec Marion Bartoli.
Délégué
de classe.
Moi, je suis heureux parce que l'ensemble des juges qui sont là sont extrêmement... les réflexions et les questions sont extrêmement pertinentes et sont tout à fait...
éligibles.
Éligibles, etc., etc. Je me ferai fort de les poser et je crois qu'elles seront toutes posées. Mais je pense que c'est le moment aussi d'apporter... une occasion, notamment au chef de l'État, de voir sa vision de l'avenir. Et là, je vais parler de positif Ouais, ah, il faut le dire.
Oui, de positif, positivisme,
de positif pour l'héritage. Et en fait, c'est pas l'héritage qui, c'est pas le bon mot, l'héritage. C'est les jeux doivent booster la culture du sport dans notre pays, mais la booster à tous les niveaux, en termes des infrastructures, de l'accueil, de l'organisation des associations sportives, etc., etc. Et de ce que ça peut apporter aussi à la société française. Il faut que les Français comprennent ce que ça peut directement leur apporter immédiatement sur leurs propres enfants. Comment le sport peut structurer une vie, etc., etc. Je veux juste constater si le chef de l'État est bien cultivé en ce sens.
Mais là, il n'y a pas que le chef de l'État, parce que les prochaines élections des fédérations sont hyper importantes.
Vont découler de la fin des Jeux.
Pour la première fois, à minima. Tous les candidats qui vont se présenter devront se tourner vers les territoires, puisque à minima 50% des votes viendront des clubs.
Tout à fait.
Donc toutes les campagnes seront tournées vers les territoires. Donc l'accessibilité, elle engage aussi les collectivités territoriales, qu'elles soient départementales ou régionales. Et là, pour la première fois, le sport va enfin partager le gâteau et partir vraiment vers la base. Donc il y a tout pour faire un héritage immatériel puissant après les Jeux. C'est des questions auxquelles certainement il répondra.
Un autre point, que le sport soit aujourd'hui plus ancré dans le quotidien des Français, des Françaises, des jeunes, des plus vieux, peu importe, des gens à mobilité réduite, ne tient pas uniquement du chef du gouvernement, parce que tu peux le décliner à tous les niveaux, au niveau de l'éducation nationale, au niveau de la santé, au niveau du ministère de l'Intérieur. Si tu arrives à canaliser le sport est une réponse à plein de mots MAUX de notre société.
Il est chef de tous ces secteurs-là.
Oui.
On parle de secteurs régaliens, ce qu'on appelle les régaliens, on va dire les secteurs essentiels du pays. Il est la tête de proue tous ces dossiers-là. Bien sûr.
Le sport pouvait d'ailleurs, nombreux ministères.
Il met en place.
Je pense qu'on répondrait à pas mal de.
Il pense nommer les meilleures personnes sur chacun de ces sujets-là. C'est à lui de nous dire si il s'est pas trompé de casting aussi, si ces sujets-là avancent bien. Ils sont interbriqués. Il y a une situation transversale entre l'éducation, la santé.
C'est la vraie complexité du sport. C'est-à-dire qu'il y a un ministère des sports, mais le sport est transversal.
Il touche
la société, il touche le ministère où il y a des associations, il touche la territorialité, il touche la ruralité, il touche tout. Oui. Donc, à un moment, ce dont on parle, il y a tout. Hein. Mais parler de décloisonnement, peut-être tous travailler ensemble, parce que le sport ne se réfugie pas seulement dans son ministère, il infuse partout.
Pour moi, le meilleur ministre des sports devrait être le Premier ministre, en fait. J'ai toujours dit.
Voilà, tu m'as mis la pression.
On dira Emmanuel Macron, invité exceptionnel de RMC et BFM TV ce lundi de 8h20 à 9h, qui répondra à quelques 100 jours du début des Jeux de Paris, directement aux questions d'Apolline de Malherbe, des auditeurs de RMC, parmi lesquels figure Richard, qu'on est ravis d'accueillir dans les grandes gueules du sport. Bonjour Richard.
Bonjour toute l'équipe, ça va ?
Bonjour. Ça va toujours très bien, surtout lorsqu'on partage avec les auditeurs qui veulent intervenir. Ton sentiment, Richard, à 104 jours aujourd'hui du début des Jeux, quelles inquiétudes, quelles interrogations aimerais-tu formuler auprès du chef de l'État ?
Alors, déjà, j'ai plusieurs sentiments. J'ai l'impression que vous êtes un peu fleur bleue sur la façon dont les JO vont se passer. Parce que je voyage beaucoup. J'ai fait quelques JO, notamment ceux de Londres, ceux de Sochi aussi. Et je peux vous dire qu'on est très, très loin d'une organisation optimale de Jeux Olympiques. Quand je vois les facilités de transport, les facilités en transport aérien notamment. Là, par exemple, je reviens de Dublin la semaine dernière. Quand on a atterri à Paris, on a dû attendre 40 minutes le bus qui nous amenait de l'avion au terminal, en disant on n'a pas trouvé de bus pour vous amener.
C'est un exemple parmi tant d'autres.
Hein. Oui, mais ça, Richard, c'est pas inhérent au jeu. Et pardon, mais quand tu vas sur les jeux, que ce soit à Sochi ou à Londres, tu y vas quand tu as ta place. C'est-à-dire que tu y es quand les Jeux ont commencé. Laissons au moins le bénéfice du doute qu'on sera organisé le 22 juillet ou le 20 juillet au moment où les touristes vont arriver. C'est-à-dire que là, toi, tu découvres les Jeux quand tu as ta place et quand tu atterris. Donc,
c'est là où ça m'inquiète vraiment, parce qu'on va avoir un afflux massif de touristes. Et que, alors que là, on est en régulation normale et on n'est déjà pas prêt, quand il va y avoir des millions de touristes supplémentaires, je peux vous dire qu'on va se faire du souci. Ça, c'est un point. Ensuite, la sécurité générale, effectivement. Ensuite, le prix des billets des JO, qui a été, à mon sens, une couillonnade terrible, avec des billets à 600 balles, 900 euros.
T'es anti-JO, Richard.
Richard, c'est la même chose.
Tu termines rapidement,
s'il te plaît.
À combien tu as payé tes billets pour aller à Londres ou à Sochi? Puisque t'as de quoi
et
comparer.
Et puis, moi, j'ai eu la chance, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, d'être à Sochi. On n'était quand même pas au même endroit, ni pour le même événement. Et bon, à Sochi, on a tout le même construit des routes partout, dans un endroit où il n'y avait absolument rien. Merci beaucoup, Richard, qui partage le pessimisme de certains habitants.
Simon, c'est normal, hein, parce qu'on
n'en parle que de ça.
On ne parle que des trains qui n'arrivent pas à l'heure sur les Jeux. Alors que dans la balance, il y a des choses extrêmement positives dont on ne parle jamais. D'ailleurs, dans ce débat, je vais essayer de tirer les choses vers ça parce que c'est injuste. Voilà, on parle de quelques détails sur lesquels on a peur.
C'est tellement français.
À Athènes,
à quelques jours de l'ouverture des Jeux, c'était la cata aussi.
Moi, je me souviens m'être garé avec les équipes de l'époque dans des parkings où il y avait la poussière du béton, des échafaudages. Enfin, voilà, il y avait l'avant-scène qui était à peu près acceptable. Le reste, c'était une catastrophe.
Et le prix des billets à Londres était astronomique. On a l'impression d'en oublier. Mais oui, les Jeux Olympiques, c'est un événement mondial. Quand tu vas acheter une place pour une finale de Ligue des Champions, quand tu vas acheter une place pour une finale NBA, tu vas raquer très cher aussi, comme pour les Jeux Olympiques.
Et pour ceux qui veulent
malheureusement, c'est réservé aux riches,
Pour ceux qui veulent éviter de payer, vous envoyez Paris 2024 au 732-16. On vous le répète, tout le week-end, on vous fait gagner 100 places pour les plus belles épreuves des Jeux Olympiques. J'en profite pour faire un petit appel à tous ceux qui travaillent dans les clubs au quotidien, les bénévoles du sport, les présidents de clubs, les président de Ligue, qu'il nous appelle ou qu'il nous envoie les questions qu'il souhaiterait poser au chef de l'État. Vos questions au pluriel à rmc.fr ou alors au 32-16. Je le rappelle, 8h20, 9h, Emmanuel Macron, invité exceptionnel des antennes de RMC et BFM TV, lundi, à quelques 100 jours des Jeux de Paris. David Douillet, porte-parole des Grandes Gueules du Sport, à cette occasion, en compagnie de Marion Bartoli et Rémi Boulet. Vous ne bougez pas, les Grandes Gueules du Sport reviennent dans un instant sur RMC. Ça va être l'heure du redouté car redoutable débat caché. Comme disait Pierre-Richard, je ne sais rien, mais je dirai tout.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
De retour sur RMC, les grandes gueules du sport, en direct jusqu'à midi, en compagnie aujourd'hui de Sarah Pitkowski, Olivier Giraud, David Douillet, Christophe Cessieux. Si vous avez raté les deux premières heures de l'émission, vous les retrouvez en podcast. On a parlé de Kylian Mbappé, des innovations dans le monde du rugby. On a parlé du Paris basketball et puis des questions que nos grandes gueules souhaiteraient poser à Emmanuel Macron, invité exceptionnel des antennes de RMC BFM TV. Lundi matin, vous allez directement picorer un petit peu l'émission sur les plateformes de téléchargement. Vous attendez évidemment midi, la fin de l'émission. Dans un quart d'heure, les grandes gueules contre-attaque. Vous savez, chaque GG nous propose un thème de débat. Vous votez sur le compte X de l'émission pour la proposition que vous souhaitez voir à l'antenne. On va faire un petit point. Où en sommes-nous, les grandes gueules? Qui a le plus de chances de remporter la bourriche?
J'en mange très régulièrement.
Christophe Cessieux qui met de la danse avec son débat sur la catastrophe.
Mais c'est parce qu'il a un son à faire passer.
Ah oui, il a produit. Il a eu le temps de. Il est payé pour préparer les émissions, figurez-vous. Alors, la catastrophe chez Alpine pour Christophe et les menaces syndicales qui. Les syndicats qui font planer des menaces de grève plutôt sur les Jeux Olympiques pour David Douillet. 39% pour Christophe, 36% pour David Douillet. Va-t-on revoir Nadal sur un court? 15% pour Sarah Pitkowski. Et puis, la préparation des JO peut-elle fausser les différents championnats dans les différents sports pour Olivier Giraud? Il vous reste encore un petit quart d'heure pour voter. Mais pour l'instant, vous le savez, les GG ont le regard craintif parce qu'elles ne savent pas à quelle sauce elles vont être mangées.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah bien.
Ce qui me rend triste dans notre style de vie de joueur de tennis, c'est que tu fais beaucoup de choses à la suite et tu rates des moments importants. Déclaration qui sort de la bouche de Gaël Monfils après son élimination cette semaine au deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, le joueur français qui s'est livré de façon très cash sur les difficultés à concilier vie de famille et quotidien d'un joueur professionnel sur le circuit ATP, puisque Gaël Monfils est devenu le papa il y a bientôt 2 ans d'une petite fille. Il a du mal à concilier paternité, vie de famille et vie sur le circuit. Du coup, cette question pour vous, les grandes gueules, est-ce que vous comprenez tout simplement les atermoiements de Gaël Monfils? Christophe Cessieux, oui ou non?
Non.
Non pour Christophe. David Douillet.
Oui, mais la vie n'est faite que de choix.
Ah là, oui. Sarah Pitkowski.
Non, pas vraiment, non.
Non, c'est un non. Olivier Giraud.
Bon, là, pour la plupart autour de la table, tous vécus, donc ça fait partie de la vie de sportif, quoi.
Donc non. La Monf, hein, avant de vous donner la parole, qui a rajouté, c'est difficile parce que chaque décision est un sacrifice, soit pour la famille, soit pour le tennis. Ce n'est pas facile. C'est même très compliqué, c'est à ce moment-là que tu as eu la chance ou la malchance de grandir en étant égoïste. Et cela me rend triste car dans notre style de vie de joueur de tennis, tu fais beaucoup de choses à la suite, tu rates des moments importants. Bon, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Certaines personnes disent que tu pourras le faire plus tard, mais ta fille n'a 1 an qu'une seule fois et 2 ans qu'une seule fois, ça tombe sous le sens.
Déclaration de Jean-Claude Bourdin. Déclaration de Jean-Claude Bourdin. Ouais.
Sarah, toi, ça te fait marrer, toi qui as été joueuse professionnelle, est-ce que tu comprends pas vraiment et...
Bah, je comprends, mais je peux pas comprendre en 2024, parce que l'univers du tennis a énormément évolué de mon temps. Donc on parle quand même il y a 20 ans maintenant. Il aurait jamais été envisagé qu'une joueuse puisse être maman et reprendre sa carrière, être sur le circuit. Ça n'existait quasiment pas. J'ai dû en croiser 2 dans ma carrière. Aujourd'hui,
qu'une joueuse fasse entrer son bébé dans le Player Lounge, ce genre de truc.
De manière, c'était pas adapté. Et à partir du moment où tu partais pour une maternité, tu revenais pas. Et c'était pas, ça se faisait pas de voyager en famille. Ça se faisait pas d'envisager sa carrière en famille. Les hommes, c'était plus facile, puisque déjà il y avait un écart de prize money qui était conséquent, qui permettait de voyager avec sa femme et éventuellement les enfants. Mais donc ce sport, l'univers a énormément évolué, les mœurs ont énormément évolué. Ce qu'il dit, je l'entends, mais aujourd'hui il est encore un peu plus difficilement entendable parce qu'il y a des aménagements et ça se fait et ça se démocratise, si je peux dire comme ça, de plus en plus. Voilà.
Alors. Olivier, là, on parle du tennis et évidemment, Sarah nous parle de ce qu'elle a connu sur le circuit avec évidemment un éclairage très intéressant, notamment sur cette différence entre le circuit masculin et féminin. Mais bon, c'est un problème, tu l'as rappelé dans le tour de table, qui concerne le sport de très haut niveau en général. Alors, il y en avait une illustration il y a quelques mois avec Clarissa Agbedeneu, oui, par exemple, qui avait cherché à concilier du mieux possible sa maternité et la compétition de haut niveau.
Pour moi, ça n'englobe pas le sport de haut niveau dans son ensemble, ça. Ça englobe un sportif à un moment donné de son évolution. Le sportif, et on va prendre un exemple que tu vas bien aimer, c'est le golf. C'est-à-dire que quand tu as 2 joueurs qui arrivent sur le 18e trou et qu'ils sont à égalité, ils putent pas pour la même chose. Il y en a un qui putte pour manger. Et il y en a un qui pote pour la gloire, celui qui a tout gagné déjà. Et donc, quand tu arrives et que tu as déjà commencé à tout gagner, bizarrement, tes choix et tes envies changent. Vu que tu es à l'aise. Le cas de Gaël Monfils, c'est en fin de carrière qu'il annonce ça. Certains, c'est quand ils deviennent champions olympiques. Et à partir de ce moment-là, les sacrifices qu'ils auraient faits avant, sans se poser ces questions-là, ces questions ne seraient jamais arrivées parce que là, il faut faire sa place. Et quand on fait sa place, il n'y a rien qui existe. Il y a 2 poids, 2 mesures, je trouve. Et qu'à un moment, il va falloir vraiment dire à ces sportifs, même si je comprends leur questionnement. Je les comprends. Hein. Je les comprends parce que c'est humain. Quand tu fais du sport de haut niveau, tu embrases une carrière dès le début en te disant « je vais être quelqu'un d'exceptionnel ». Donc, au-dessus de la mêlée, donc qui fait des sacrifices au-delà de la mêlée pour que les gens aient envie de te suivre, c'est parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Aujourd'hui, demain, on peut demander les 37 heures aussi, si on veut.
toi, tu comprends la montre.
Ouais, je le comprends, mais la vie n'est faite que de choix. Et moi, j'ai été père à 21 ans, donc j'étais loin d'être champion olympique, etc., etc. Et bien sûr que au départ et ensuite mes enfants m'ont manqué terriblement. Mais si j'ai un conseil à lui donner pour que ce soit moins dur, c'est de faire des des absences. Il faut donner un sens à ces absences, donc une source de motivation. Voilà. Et c'est en cela que ça le rendra plus fort. Il faut que tout prenne une cohérence. Et quand on aborde les choses de cette manière-là, le manque, tu le digères différemment. Même s'il est toujours présent, il prend une autre dimension. Et ça existe, c'est là. C'est pas évident d'associer la vie familiale à la vie d'un athlète de haut niveau. Malgré tout, t'as le choix, mon pote. T'as le choix d'arrêter, t'as le choix d'assumer, t'as le choix de pas être là. Mais t'as pas le choix de te plaindre.
C'est un petit peu ce qu'a fait Charlotte Lambache, l'escrimeuse qui voulait faire les Jeux, et puis elle a choisi finalement la maternité, et elle renonce à son rêve olympique. Christophe, ça te... Oui, mon...
Non, mais je suis entièrement d'accord avec David, c'est une question de choix. Gaël, aujourd'hui, il joue les prolongations, mais je comprends...
Il les joue pour un objectif précis.
Pour aller aux Jeux Olympiques.
Oui, parce qu'il y a cette carotte des Jeux Olympiques. Donc,
on ne peut pas tout faire. Quoi. C'est pareil pour n'importe quel métier. C'est pas que pour les sportifs de haut niveau. Quand tu es reporter, c'est la même chose. Hein. Moi, j'ai loupé des moments importants dans ma famille parce que je travaille tous les week-ends avec vous. Parce que je bosse beaucoup pendant les vacances scolaires.
Quand tu es commercial aussi, quand tu fais la politique aussi, c'est
la même chose. L'activité professionnelle, effectivement, t'empêche de voir tes proches, t'empêche de voir tes amis, mais c'est comme
ça. À la différence près que quand t'es un joueur de tennis ou un sportif, que tu rentres dans un stade où il y a 20 000 personnes qui t'acclament,
les sacrifices, en tout cas,
tu as un retour sur tes sacrifices. Ouais.
Un retour financier aussi qui est intéressant, aussi, qui te permet après avoir raté ces moments-là, et de partir dans des endroits paradisiaques avec ton enfant.
Il ne faut pas excuser les défaites à cause de ça.
C'est pas ce qu'il fait,
c'est un homme, je ne prendrai pas du tout ces positions-là par rapport aujourd'hui au désir d'avoir des enfants, des sportives, parce que leur horloge, c'est elle qui l'a contrôle, et là c'est tout à fait respectable, et en tant qu'homme, je peux pas me porter juge de ça, tout simplement.
Tu te défiles donc ?
Non, je me défile pas, les sensibilités, elles sont différentes, et dans le cas des jeunes sportives ou des moins jeunes sportives, c'est difficile.
Le choix est différent.
Nous, c'est assez simple, hein, homme, l'horloge, c'est pas nous qui la portons. Pour les sportifs, c'est une question qui est totalement différente. C'est, est-ce que je me lance dans une carrière longue ou je fais une carrière plus courte parce que je veux avoir un enfant? Mais ça, c'est vraiment, ça reste dans du domaine personnel féminin.
Voilà, bon, je crois qu'il y a une sorte de consensus entre vous. C'était le petit débat caché qu'on vous avait préparé avec Kylian Véran. J'ai une petite annonce à vous faire, mais GG, nous avons, c'est officiel, un gagnant. Bonjour Alex.
Salut.
Salut Alex.
Bonjour Alex et félicitations.
Bonjour tout le monde.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Alors Alex, sur AMC, vous choisissez entre deux épreuves ce matin dans les grandes gueules. J'ai devant moi pour vous, Alex, deux places pour assister soit au final du table tennis, hein. Comprenez.
Génial, le tennis de table. Avec les frères Lebrun.
Le ping, comme disent les jeunes Lebrun. Ce sera le 4 août à Paris. Ouais. Ou alors, deux places pour assister aux demi-finales, à la finale du rugby à 7. Vous avez dit qu'on se moque pas de vous sur.
Tu penses qu'il choisit quoi?
Tu penses c'est bon. Du lourd.
Pronostic. Il va choisir le rugby pour David.
Le rugby, je pense.
J'ai pas entendu quel était son.
Je pense qu'il va prendre rugby. Ouais.
Rugby, Christophe, tu penses?
Je pense qu'il va prendre ping-pong.
Alors le ping ou le rugby? Le rugby pour Alex. Deux places pour assister aux demi-finales, à la finale du rugby à 7. Ce sera le 30 juillet à Paris.
Trop bien.
Quel vénard. C'est ça, sympa.
Carrément. Franchement, merci beaucoup.
Tu vas y aller avec qui, Alex? Tu sais déjà?
Je pense, ouais. Je pense savoir déjà. On va y aller avec un copain et on a déjà en fait pris des places pour aller voir de la boxe et du basket. Et donc on va pouvoir cumuler avec ça. Donc ça va être trop bien.
Eh ben, tu as devancé ma question. Je voulais savoir si tu avais déjà quelques places pour d'autres épreuves. Ouais. On est ravis en tout cas.
Trop bien. Merci beaucoup.
Eh bien, merci à toi, auditeur de RMC. Bravo encore et bon Jeux Olympiques. Du coup, Alex, si vous voulez faire comme Alex, si vous voulez vous aussi deux places pour Paris 2024, c'est jusqu'à mercredi seulement sur RMC. Bah, dépêchez-vous, on verra si tu es démasqué comme un journaliste de la rédaction. Vous envoyez à Paris 2024 au 7-32-16 avec ou sans espace entre Paris et 2024. En tout cas, Paris 2024 au 7-32-16 et vous remportez vous aussi deux places pour les plus belles épreuves des Jeux de Paris 2024 grâce à RMC. Vous ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite de l'émission. Olivier Giraud, Sarah Pitkowski, David Douillet, Christophe Cessieux qui passent à la contre-attaque dans quelques instants.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Simon Dutin.
11h47, la dernière ligne droite des grandes gueules du sport en ce samedi 13 avril, avant de retrouver la bande des Paris RMC de midi à 13h, le temps pour une grande gueule, vous le savez, à cette heure-ci, de se transformer en rédacteur en chef. Elles vous ont chacune proposé une idée de débat, il est temps de voir lequel vous a le plus séduit, vous les auditeurs.
RMC, les GG contre-attaque.
Alors, comme chaque week-end, c'est à vous, les auditeurs, de voter sur le compte X, anciennement Twitter, de l'émission Les Grandes Gueules du Sport. Nous avions au programme, et en ordre croissant de suffrage, les Jeux Olympiques. Vont-ils perturber, fausser un petit peu la tenue des compétitions nationales dans différents sports? C'était une suggestion d'Olivier Giraud. Voilà, qui finit 4.
Je suis déçu. Je suis déçu.
Il est déçu, oui. Déçu avec 8%.
Je suis
à la 5e
place. Je crois qu'il y a un incompris là.
8. Ouais, ouais.
Ah, mais tu sais.
T'as pas fait une bonne campagne,
toi. Ouais, ouais, moi, j'arrive pas avec mes vidéos déjà préparées 15 minutes. C'est vrai que
Ouais, mais t'as fait 8.
J'ai pas les mêmes moyens que toi. Toi, c'est très américain, tu vois. Tu fais penser un peu aux américains.
On sent un petit peu de.
Tu vas te racheter, tu vas voir, mais tu vas moins faire le malin.
On sent un petit peu de déception et c'est bien légitime, Olivier, ce sera pour une prochaine fois. Troisième des suffrages, reverra-t-on Nadal sur un court de tennis, sur une idée originale de Sarah Pitkowski? Oui, on a grappillé quelques
Ah non, je pensais que c'était deuxième.
Non, troisième.
Troisième. Ah,
troisième,
oui, bah
avec
puisque...
16% des suffrages.
C'est pas mal.
Voilà. Ouais,
c'est pas mal.
Hein.
Petite qui débute.
Le c'est une place sur le podium. Hein. On rappelle, il y a quand même un podium.
Oui, enfin, pour 4 partants, c'est pas bien compliqué.
Oui, mais bon. Troisième, donc Sarah, bien joué. Deuxième, alors il y a eu une petite bataille quand même. À 36% à la deuxième place, les menaces de grève que font planer les syndicats sur la tenue des Jeux Olympiques et de tout ce qui...
C'est intéressant.
Pourrait, oui.
Attention.
Sur une idée originale de David Douillet.
En plus, tu te fous de moi. C'est pas bien.
Qui a séduit 36%.
Pas loin. Ouais. Je peux pas... T'as remarqué qu'aujourd'hui, je me foutais beaucoup moins de ta gueule que d'habitude.
Ah bah, ouais. C'est fondamental. C'est incroyable.
Ah ouais, bah oui. Quand t'as David en face, tu vois, en studio...
Ça marche toujours.
Ah bah ouais. Bah ouais, mais pour l'ensemble de son œuvre, tu devrais lui péter.
Bon, on verra ça après la 36%. C'est un joli score, ouais. David.
Bravo. On n'attendait pas ça.
Bravo, deuxième, David. Et donc, le winner is Christophe Cessieux. Il est fier comme un.
Ah ouais, ouais, ouais.
Non, pas du tout.
Alpine. Est-ce qu'il faut en finir avec Esteban Ocon et Pierre Gasly? On rappelle que c'est la catastrophe cette saison. Libre antenne pour toi, Christophe.
Vous vous souvenez sans doute de ce moment incroyable. C'était le 1er août 2021. On était en plein Jeux Olympiques. Le Grand Prix de Hongrie et ce moment béni des dieux lorsque Esteban Ocon, jeune pilote français, apporte à Alpine sa première victoire en Formule 1.
Dernier tour pour Esteban Ocon, peut-être vainqueur d'un Grand Prix ici en Hongrie. Allez Esteban, ça va le faire cette victoire. Après la qualif' au volant d'une voiture française, au volant d'Alpine, Esteban Ocon maintenant négocie la dernière partie de ce tracé. La grande courbe à droite qui mène à la ligne d'arrivée. Esteban Ocon remporte la première victoire en Formule 1 de sa carrière de pilote de Grand Prix. Génial, génial Esteban.
sinon voilà.
La révolte gronde en studio. Non,
mais... ils ne comprennent pas qu'on puisse travailler ces sujets à l'avance. Parce que eux, ils se réveillent le matin, ils se disent oh, bah, tiens, je vais faire quoi aujourd'hui? Tiens, j'ai lu ça dans le journal, oh, bah, tiens, je vais faire ça. Non, je suis désolé, les gars, voilà le professionnel.
Moi, je vais demander à huissier à la prochaine.
Et moi, je vais revendiquer de nombreuses piches pour préparer le contre-attaque. Comme ça, on va venir ici, puis on va écouter les sons, puis on va
préparer de chez moi.
La prochaine fois, tu fais venir Nadal. Tu dis il y a Nadal qui est dans le but et qui est dans le studio. Est-ce que vous choisissez mon sujet?
Allez, bon, le débat, ça vous intéresse que je puisse quand même évoquer mon sujet. Donc, ce jour-là, Jean-Luc Roy qui est à l'antenne, David Douillet qui est également en studio, et tous les passionnés français de Formule 1 sautent aux anges. C'est la première fois depuis 83 qu'un pilote tricolore s'impose en Formule 1 au volant d'une voiture 100% française. Ce jour-là, tout le monde s'est pris à rêver d'un nouvel âge d'or pour la F1 française avec une voiture performante, un pilote jeune et de grand talent, en plus tricolore. À la fin de la saison, Alpine termine 5e au classement constructeur et va encore gagner une position en 2022. En 2023, c'est l'année de l'arrivée d'un deuxième pilote français chez Alpine, Pierre Gasly, qui, tout le monde le croit à l'époque, va permettre à l'écurie bleue de franchir un nouveau cap.
Et qui avait gagné un Grand Prix, lui aussi, avec AlphaTauri.
Exactement, avec AlphaTauri. Et de nous offrir des duels de légende avec son compatriote, coéquipier, mais pas vraiment copain. C'est vrai que tout le monde, à l'époque, on était comme des dingues. Oh là là, ça va freiner au dernier virage, ils vont se rentrer dedans, on va se régaler. Mais malheureusement, ces duels, ces bagarres pour des succès en Grand Prix vont rester lettre morte. Car depuis, il faut bien le dire, Alpine non seulement n'a pas progressé, mais a sérieusement régressé. L'année dernière, ils ont sauvé les meubles en terminant 6e du championnat. Et là, depuis le début de la saison 2024, c'est là Cata. La voiture est mal née, son moteur affiche un déficit de 20 à 30 chevaux par rapport à la concurrence, son châssis est du même tonneau, et du coup, la meilleure place pour Gasly et Ocon depuis le début de la saison en 4 Grands Prix, eh bien, c'est une modeste 13e place, pas un seul point décroché par l'un et l'autre des pilotes. C'est la Cata, chez Alpine on fait grise mine, plusieurs dirigeants de l'écurie ont été virés, à chaque Grand Prix dans le paddock, c'est la soupe à la grimace chez Alpine. On s'inquiète pour l'avenir, car si les ingénieurs ne parviennent pas à trouver des solutions pour arranger la voiture d'ici la fin de la saison, eh bien, ils vont devoir se trimballer à cette trapanelle encore toute la saison prochaine, parce que l'année prochaine, eh bien, tout va être gelé, il n'y aura pas d'innovation possible. C'est dramatique pour une marque comme Alpine, qui est une sous-marque de Renault. Autant que vous appelez Red Bull, que vous vendez des canettes de soda, le résultat de votre écurie n'a pas de conséquences finalement en termes de vente de votre produit. Quand vous appelez Alpine, que vous êtes sur le point de lancer quelques modèles, c'est sûr que c'est pas très très bon pour la réputation de la marque.
Il y a une question ou c'est un édito
C'est un édito. J'ai pas fini. J'ai encore pour 2 minutes.
D'accord. Bon. Donc, tu vois, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de choses inscrites sur la feuille.
Et bon, alors, écoute, si tu veux, j'arrête.
Non. Ça y est. Je peux arrêter. Semblant de se vexer.
Oh, le coup du genre.
Il a pas l'habitude de faire l'émission. Oh,
sympa. Il est vexé. Ça y est.
Tout cela sans compter les situations des deux pilotes français. Qui sont en fin de contrat et qui se demandent ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Ou ils tentent de rester chez Alpine, mais là, c'est quand même un pari très, très risqué. Ou alors, ils partent chez Audi, mais là aussi, c'est risqué parce que tu vas découvrir une écurie qui va lancer ses voitures en Formule 1. Donc, ils sont vraiment dans la panade. Je ne sais pas ce que vous leur conseilleriez, vous, rester chez Alpine ou partir. Voilà la question.
Aller voir le patron de Renault pour négocier plus de moyens.
Mais ils en ont des moyens. Ils en ont des moyens, Alpine. On a des moyens. Je veux dire, c'est quand même un gros constructeur. Renault, c'est un des plus gros constructeurs.
Oui, mais je ne suis pas sûr que les moyens soient là pour développer une.
Non, mais c'est surtout que les ingénieurs sont passés à côté du truc, quoi. Ouais. C'est une catastrophe.
Et toi, du coup, en un mot, Christophe, tu as forcément un avis. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de la saison? Il y en a un des deux qui va partir, au moins?
Je pense que s'il n'y a pas de progrès qui sont faits d'ici la fin de la saison, ils vont partir. Le problème, c'est que
mais il faut qu'il
ça se décide maintenant.
Il faut qu'il y ait des places qui se libèrent.
Il y a des places chez Audi, a priori. Mais Carlos Sainz, qui s'est fait virer de Ferrari, c'est pas trop où aller, il y a peut-être aller chez Audi. Ouais. C'est une saison très compliquée parce que tous les pilotes arrivent en fin de contrat. C'est la silly season.
Il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les ingénieurs, ou en tout cas Alpine, rassurent ses pilotes pour les rester. On vient d'apprendre que Fabio Quartararo, qui quand même depuis 2 ans avec Yamaha, est en train de prendre l'eau. il a quand même confirmé qu'il voulait rester chez Ayama parce qu'on lui a apporté des garanties. Peut-être qu'aussi Alpine va pouvoir l'année prochaine.
J'ai pas l'impression qu'ils apportent beaucoup de garanties pour
On n'en sait rien. La saison n'est pas terminée, mais il y a forcément des choix qui vont être faits chez Alpine, peut-être au profit de nouveaux ingénieurs.
L'Alpine est tellement mal née, elle est tellement en retard par rapport aux autres que tu pourras mettre des pansements sur une jambe de bois, mais pas plus que ça, je pense.
Et en tout cas, le calvaire qui risque de se poursuivre. Prochain Grand Prix, le Grand Prix de Chine, c'est la semaine prochaine, évidemment. Vous n'en manquerez pas une miette sur les antennes de RMC.
En fait, c'était un édito, mais pas vraiment un débat quand même.
Voilà.
Une contre-attaque.
Oui, c'était le moment de liberté de Christophe Cessieux, comme on le suggère de renommer la rubrique sur le compte X de l'émission. Merci beaucoup, David. Plaisir et honneur de t'avoir.
En termes de progrès technique, je crois que j'ai niqué le siège.
Oui, mais ça, on est habitué. On a un budget spécial. T'inquiète pas, c'est de la location de toute façon. Sarah, je te remercie. On se retrouve demain. Merci beaucoup, mon cher Olivier.
À bientôt.
Comme à chaque fois, Christophe, on te retrouve évidemment demain. Et moi, je reste encore quelques instants avec vous. J'accueille dans un instant la bande des flambeurs pour les paris RMC midi 13h. Les grandes gueules du sport reviennent demain à 9h30. Salut.